peut-être aujourd'hui ce sera un moment propice pour réfléchir un petit peu. Dans quel sens et dans quelle mesure est-ce que nous nous sommes enracinés même plus en Christ au courant de l'année dernière? Et comment pouvons-nous continuer ce que nous avons commencé l'année dernière? Notre enracinement en Christ n'est pas terminé. Ça ne se termine jamais. Ce n'est pas terminé juste parce que l'année passée est terminée. Nous devons continuellement chercher à nous enraciner plus en Christ, mais ça ne s'arrête pas là non plus. Parce que qu'est-ce qu'on fait après quand s'enracine, on grandit, on pousse? Ou si on reprend l'image d'une fondation, au lieu des racines, on construit là-dessus. Et en effet, dans la version du semeur, le verset en Colossiens que je viens de lire le traduit explicitement: puisque vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Construisez toute votre vie sur lui. Nous avons reçu Christ. Nous nous sommes enracinés en Christ. Cette année, construisons sur Christ. Construisons sur cette fondation. Que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie d'église, laissons Dieu à travers nous construire sur la fondation qui est Jésus-Christ. C'est dans cette optique que nous allons étudier le livre de Néhémie. Cette optique de construire sur Christ. Néhémie, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une construction littérale, mais c'est aussi une construction surtout spirituelle, parce que les enjeux sont spirituels, et au fond, le combat est toujours spirituel. Et c'est pour ça que Jésus doit être la fondation de tout, parce qu'il est la seule fondation spirituelle pour notre vie. Si votre fondation, la fondation de votre vie est autre chose, vous risquez de tomber. Vous allez sûrement tomber parce que la fondation n'est pas solide. Alors, pour vraiment comprendre le livre de Néhémie et les enjeux du combat, nous allons voir d'abord aujourd'hui où ce livre se trouve dans la grande histoire de la Bible. Parce que si on n'a pas une bonne idée de ce qui s'est passé avant et de ce qui va se passer après, ce n'est pas forcément facile à comprendre ce livre. Le dimanche prochain, nous verrons chapitre 1 ensemble. Ce qui vous donne toute une semaine pour lire le premier chapitre de ce livre. En fait, vous pouvez lire tout le livre et je vous encourage à lire le livre entier. Mais au moins le premier chapitre avant le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, où se trouve ce livre dans la Bible? Alors, vous allez trouver dans vos Bibles Néhémie au milieu de l'Ancien Testament. Voilà tous les livres de l'Ancien Testament. Vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous ne l'avez pas encore. Mais ce sont tous les livres de l'Ancien Testament. Et Néhémie se trouve au milieu. Juste après Esdras et avant Esther. Vous voyez là en bleu. Mais ces trois livres, Esdras, Néhémie et Esther, se trouvent au milieu de la Bible, mais chronologiquement, ils sont la fin. En fait, tous les livres qui viennent après ces trois dans l'Ancien Testament sont des livres soit de poésie, là, en rouge, ou bien de prophétie, en orange. Et là, vous voyez, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de la Bible. Donc, Esdras, Néhémie et Esther sont la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, chronologiquement. Tout ce qui vient après est tiré de ce qui s'est passé jusqu'au livre de Néhémie. Donc, les événements dans le livre de Néhémie commencent vers l'an 445 avant Jésus-Christ et ils se terminent vers 430. C'est important, parce que si vous avez dans votre tête ce qui se passe, ça veut dire 430 ans avant la venue de Jésus. Mais il n'y a aucun livre de la Bible qui parle de cette période entre Néhémie et Jésus. Néhémie est donc la fin de l'histoire. Et pour le comprendre, il faut connaître le début de l'histoire. Ce qui veut dire forcément toute la Bible jusqu'à là, tout l'Ancien Testament. Donc le défi ce matin, pour moi, c'est de raconter dans 10 minutes toute l'histoire de la Bible. Tout ce qui s'est passé dans la Bible jusqu'au livre de Néhémie. Alors, je sais que certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette histoire en détail. Et donc pour vous, vous pouvez voir ça comme une sorte de quiz. Essayez de voir si vous pouvez résumer l'histoire de l'Ancien Testament dans votre tête pendant que je le fais. Et bien évidemment, je vais forcément sauter certains détails. Peut-être même votre histoire préférée dans la Bible. Par exemple, si votre personnage préféré, c'est la deuxième femme d'Abraham, désolé, mais aujourd'hui, on va la sauter. Et en fait, je vais essayer de souligner certains aspects de cette histoire qui sont des fils conducteurs qui se voient tout au long de l'histoire. On va aller rapidement. Et ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tous les détails. Essayez juste de retenir une vision de l'ensemble, parce que c'est ça qui est important. L'histoire commence où ? Genèse, évidemment. Lorsque Dieu crée l'univers. Et il place Adam et Ève dans le jardin qu'il a préparé pour eux. Puis le péché entre dans le monde. Et Adam et Ève doivent quitter cet endroit. Désormais, leur mission de cultiver et de protéger la terre et de vivre dans la présence de Dieu, cette mission sera plus difficile. Et dans les générations qui suivent, le péché se répand. Ça se voit dans quel récit? On est tellement peu nombreux, on pourrait le dire à haute voix. Bon, Caïn, déjà, et puis on va aller un peu plus rapidement, puis Noé, puis la tour de Babel. Et donc, au milieu de ce désastre, Dieu choisit un homme, Abraham, qui va être le père d'un nouveau peuple, un peuple qui connaît Dieu, qui va le faire connaître au monde. Et cette famille sera une bénédiction pour qui ? Toutes les nations. Une bénédiction pour toutes les nations. Genèse 12, 2, les versets clés sont en bas. Et pour ça, Dieu appelle Abraham à un nouvel endroit, Canaan, le futur pays d'Israël. Mais 4 générations plus tard, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, après la naissance de Joseph, cette famille se trouve en Égypte à cause d'une famine. Et ça, c'est le livre de Genèse. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas prendre 4 minutes pour chaque livre. Mais qu'est-ce qui se passe en Égypte? Après quelques siècles, cette famille choisie devient esclave du pharaon. Et il paraît que les promesses que Dieu a faites à Abraham sont tombées à l'eau. Mais pendant cette période d'esclavage, qu'est-ce qui se passe? La famille grandit. Elle n'est plus une petite famille. Elle est un peuple, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et Dieu, il sort ce peuple miraculeusement d'Égypte pour qu'il puisse revenir à l'endroit qu'il avait donné à Abraham. C'est qui le leader? C'est Moïse. Moïse est le leader, mais c'est Dieu qui les guide par sa présence sous forme de colonne de feu. Et pendant le voyage, Dieu donne à ce peuple 2 choses afin qu'il puisse continuer à les accompagner. 2 choses. Il lui donne le tabernacle, un endroit au milieu du peuple où sa présence restera, Exode 25. Et Dieu donne à ce peuple sa loi, qui fera que cette présence rayonne à travers le comportement du peuple. Là, ce sont les livres d'Exode, Lévitique, non, et Deutéronome. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il sort de l'Égypte et après un voyage très compliqué, plein de miracles, mais aussi de la désobéissance de la part du peuple, le peuple arrive enfin à la terre promise. Moïse meurt et c'est Josué qui conduit le peuple dans la terre promise. Lorsqu'ils entrent, c'est l'arche de l'Alliance, le signe de la présence de Dieu qui traverse le Jourdain devant le peuple. Ça, c'est le livre de Josué. Mais après Josué, le peuple retombe progressivement dans le péché. La terre promise est polluée par leur péché. C'est ce que dit le psaume 106. La terre promise est polluée par le péché du peuple. Ça, c'est la période des juges. Des juges comme Déborah, Gédéon, Samson. Et puis, finalement, le peuple demande un roi. Dieu leur donne qui? Saoul, d'abord. Mais Saoul n'est pas fidèle à Dieu. Et donc Dieu rend David comme roi. C'est la vie de David que nous avons étudiée le printemps dernier. Sous le règne de David, le royaume d'Israël grandit et se stabilise. Dans un sens, c'est l'âge d'or pour le royaume d'Israël. Salomon, le fils de David, construit un temple pour remplacer le tabernacle comme le lieu saint au milieu du peuple où la présence de Dieu demeure. Et le royaume devient extrêmement riche pendant cette période. Ça, c'est les livres de 1 et 2 Samuel. Et en principe, cette période sous le règne de David et Salomon aurait dû être l'accomplissement parfait de la promesse de Dieu à Abraham. Dieu avait fait de ce peuple une grande nation. Mais le problème était que cette nation n'était pas encore une bénédiction aux nations. Au contraire, le péché de David et le péché de Salomon a entraîné de graves conséquences. Sous le règne de Salomon, le royaume, qu'est-ce qui se passe au royaume? Il se divise en deux. Les 10 tribus du nord gardent le nom Israël. Les 2 du sud sont désormais appelés Juda. Les livres d'un et deux rois et d'un et deux chroniques racontent les histoires de ce royaume divisé. Et ce sont des histoires violentes. Ce n'est pas pour les enfants, ces histoires. Parce que ces rois, ils sont méchants. Et très infidèles, idolâtres. Certains de ces rois étaient bons, comme Josias, mais la plupart étaient infidèles, comme Ahab et sa femme Jézabel. Pendant cette période, l'idolâtrie et l'injustice sont entrées dans le pays, ont pollué la terre. D'où beaucoup des avertissements dans les livres des prophètes qui suivent dans la Bible, mais ils sont tirés de cette période chronologiquement, parce qu'il y avait tellement de péchés, tellement d'infidélité pendant cette période. Et dans les prophètes, l'un des avertissements qui revient souvent est que si ce peuple ne se répand pas, il sera puni. Il perdra le pays parce qu'il ne fait que le polluer. Et justement, 250 ans après David environ, les Assyriens conquièrent les 10 tribus du Nord, le royaume appelé Israël, et le peuple est subjugué et dispersé. 150 ans plus tard, c'est le sud, le royaume de Juda, qui est conquis par c'est les Assyriens et puis les Babyloniens, les grands méchants de la Bible, les beaux Babyloniens. La présence de Dieu, à ce moment-là, on lit que la présence de Dieu quitte le temple à Jérusalem à cause du péché du peuple. Le temple est détruit et le peuple est amené en exil à Babylone. Encore une fois, il paraît que les promesses que Dieu a faites à Abraham sont tombées à l'eau. Mais c'est aussi pendant cette période triste et difficile que Dieu rappelle son amour et sa bienveillance au peuple. Dans le livre de Jérémie, par exemple, un verset préféré de beaucoup de personnes, Jérémie 29, 11, qui le connaît? Je vais lire. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est à ce moment-là, dans l'histoire du peuple, pendant qu'ils sont en exil, pendant qu'ils sont éloignés de Dieu, que Dieu prononce cette parole d'espérance pour le peuple. Et là, enfin, nous sommes arrivés au livre d'Esdras et de Néhémie. Le peuple est en exil. Mais Dieu agit toujours pour le bien de son peuple. En Esdras, le roi de Perse conquit les Babyloniens. Et il permet aux Juifs de retourner à Jérusalem. Le peuple revient petit à petit et reconstruit le temple. Et ça, c'est fait en Esdras 6. Mais la ville n'est pas entièrement construite. L'histoire de Néhémie est donc la suite de ce livre d'Esdras. Parce que Néhémie va revenir à Jérusalem pour terminer la reconstruction de la ville. C'est le dernier récit chronologiquement dans l'Ancien Testament. C'est le temple qui est reconstruit. C'est ce que nous allons voir dans ce livre. Voilà donc l'histoire de l'Ancien Testament dans à peu près 10 minutes. Et voilà donc où se trouve ce livre de Néhémie, à la fin de cette longue histoire de Dieu et son peuple, et juste avant une autre histoire, le Nouveau Testament. Ce qui n'est pas en fait une autre histoire, mais la continuation de celle-ci. Et nous le verrons tout à l'heure. Mais d'abord, l'histoire que nous venons de voir jusqu'ici. Il y a des hauts et des bas, c'est clair. Mais il y a certains thèmes et certaines vérités qui reviennent tout au long de l'histoire. Et j'aimerais qu'on parle brièvement de ces trois thèmes. Trois thèmes. Un peuple, une présence et un pays. Ce sont trois choses en fait que Dieu est en train de construire tout au long de cette histoire. Et puis nous verrons les implications pour nous et notre étude de Néhémie. Mais je devrais vous prévenir. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'informations et un peu moins d'applications que d'habitude peut-être. Mais c'est la fondation pour ce qui vient. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste venir un dimanche et puis partir. Parce que ça fera une suite. Et aujourd'hui, c'est l'information qui est importante pour ce qui suit. Alors, ces thèmes dans l'Ancien Testament, ils sont où? Le premier thème, l'idée d'un peuple. Dès le départ, Dieu construit un peuple. Vous avez constaté, Dieu donne à Adam et Ève le commandement de se multiplier. Parce qu'il veut que la terre soit remplie d'un peuple qui le connaît. Lorsque le péché entre, malheureusement, la plupart des êtres humains se coupent de cette connaissance. Mais le but a toujours été d'avoir un peuple, une famille. Et après que le péché entre, qu'est-ce que ça change? Ben en fait, ça rend l'existence de ce peuple qui connaît Dieu même plus importante. Parce que ce peuple aura maintenant comme but de faire connaître ce Dieu aux autres qui ne le connaissent pas. Ça commence avec Abraham. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament suit ce peuple que Dieu a choisi pour bénir les nations, pour révéler Dieu aux nations. Et voilà pourquoi la destruction du temple et de Jérusalem et l'exil du peuple par les Babyloniens, pourquoi c'est un si grand désastre. C'est pas juste que le peuple souffre. On peut lire ce livre et dire, ah, c'est difficile pour un peuple d'être en exil comme ça. Mais c'est pire que ça, parce que ce peuple, c'est le peuple de Dieu qui devrait révéler Dieu aux nations. Ce peuple était censé être l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, afin de ramener les nations à Dieu. Et si ce peuple est détruit, quels sont les enjeux? Si ce peuple est détruit, si ce peuple reste en exil, ce peuple aura échoué complètement à sa mission de révéler Dieu aux nations. Quand il s'agit du peuple de Dieu, et voici une application à notre vie, quand il s'agit du peuple de Dieu, les enjeux sont toujours plus importants que la simple expérience du peuple. Que le peuple souffre ou pas, que le peuple soit béni ou pas, c'est la mission de Dieu qui est en jeu. Quand nous pensons à notre projet bâtiment, ce n'est pas une question de que nous soyons à l'aise, que nous soyons contents, que nous ayons des chaises belles. C'est la mission de Dieu qui est en jeu. C'était le cas pour Néhémie et c'est le cas pour nous. Alors, le deuxième thème, c'est une présence. Dieu a voulu créer un peuple, mais ce n'était pas pour les regarder de loin. C'était pour être présent avec ce peuple. C'était pour habiter parmi son peuple. Dès le départ, l'être humain est créé pour vivre dans la présence de Dieu. Tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu. C'est pour ça que sa présence est la seule source de la vie pour nous. Au début, Dieu a marché dans le jardin avec Adam et Ève. Et après que le péché arrive, tout ce que Dieu fait est destiné à restaurer cette relation, afin qu'il puisse être présent avec Dieu. Dieu veut être présent dans ta vie. Le jardin d'Éden, la colonne de feu, le tabernacle, le temple de Salomon, toutes ces choses étaient en fait des sortes de temples. Des temples où Dieu était présent avec son peuple. Elle existait pour que la présence de Dieu se manifeste concrètement sur terre, au milieu de son peuple. Et voilà pourquoi la première chose que le peuple fait quand il revient de l'exil, en Esdras, c'est de reconstruire le temple. Pour que la présence de Dieu soit avec eux concrètement. C'est l'un des grands thèmes de l'Ancien Testament. Toute cette histoire tourne autour du désir ou du besoin des gens que la présence de Dieu demeure auprès d'eux. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Notre plus grand besoin et celui de nos prochains, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Alors, finalement, un pays. Dès le départ, Dieu a voulu donner à son peuple un pays, une terre bénie. Qu'est-ce qu'il a donné à Adam et Ève? Un beau jardin. Un jardin qui un jour aurait pu couvrir toute la terre. Et puis, Dieu amène Abraham dans la terre promise. Et il a fait sortir le peuple d'Égypte pour revenir définitivement dans ce pays. Puis, pendant les périodes des rois, c'est la division du royaume en deux qui entraîne la tragédie de l'exil. La tragédie due à la désobéissance du peuple. À cause de leur infidélité, ils ont perdu le pays qui avait été donné à Abraham. La terre qui avait été conquise par Josué, le temple qui avait été construit par Salomon, ils ont tout perdu. Encore, la promesse que Dieu a faite à Abraham semble être tombée à l'eau. Et donc ce retour d'exil dont nous allons lire en Néhémie, ce n'est pas juste une histoire d'un peuple en difficulté. C'est la suite du plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut donner une terre bénie à l'humanité. Dieu veut qu'il y ait un peuple sur terre qu'il connaît, un peuple au milieu duquel il peut habiter. Ce sont les enjeux de tout l'Ancien Testament. Et ils trouvent leur point culminant dans ce livre de Néhémie. Donc je vous encourage à lire ce livre de Néhémie comme ça cette semaine. C'est le point culminant de cette histoire. Dieu est en train de construire ces trois choses. Mais il paraît que ça ne va peut-être pas aboutir. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? À part notre lecture du livre de Néhémie, qu'est-ce que ça change? D'abord, nous devons reconnaître, bien sûr, que Dieu veut toujours la même chose, parce que Dieu ne change pas. Dieu veut un peuple. Dieu veut manifester sa présence à travers ce peuple. Et Dieu veut donner un pays à ce peuple. Ce qui a changé, par contre, c'est la façon dont il fait ces choses maintenant. Si ce qui se passe en Néhémie est la fin de l'Ancien Testament, comme vous le savez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est la croix, c'est Jésus. Et ça change tout. Parce qu'après l'Ancien Testament, après l'ancienne alliance, il y a une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus change tout. Parce que c'est le sang de Jésus qui paye pour tous les péchés du peuple, avant et après sa venue. C'est le sang de Jésus qui règle le problème de notre séparation de Dieu. Et donc, toutes ces choses, le peuple, la présence et le pays de Dieu, ils prennent un nouveau sens après Jésus. Et nous allons terminer en voyant brièvement les nouveaux sens de ces choses. D'abord, le peuple de Dieu, c'est qui maintenant? C'est l'Église, 1 Pierre 2. C'est le corps du Christ qui est le peuple de Dieu, tous ceux qui ont mis leur foi en Christ. Ce n'est plus nécessaire d'être juif ou de devenir juif pour faire partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas nécessaire d'adopter les coutumes et la culture juive ou européenne ou américaine ou africaine ou asiatique. Tout ce qui est nécessaire, c'est la foi en Christ. Une foi authentique qui produit en nous une nouvelle vie. C'est ça qui fait le peuple de Dieu. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. L'Esprit a déjà conduit Didier à citer ce verset aujourd'hui. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes unis les uns aux autres, mais aussi à tous ceux qui nous ont précédés. Abraham, Moïse, Ruth, David, Esther, Néhémie, nous continuons leur histoire. Vous en rendez compte? Tu continues par ta vie, aujourd'hui, cette histoire que nous lisons. Ce que tu fais dans ta vie quotidienne, dans ta vie chrétienne, ce que nous faisons dans notre Église, ce n'est pas moins important que ce que Néhémie et les autres ont fait. C'est tellement important parce que c'est la même histoire. Lorsque nous lisons Néhémie ensemble ces prochaines semaines, je vous encourage à réfléchir à ta vie. Si ma vie était inscrite dans les Écritures, qui serais-je? Quel rôle est-ce que je joue dans ce peuple qui est au cœur de tout ce que Dieu veut faire dans ce monde? Et n'oublions non plus, quand nous lisons, que la fidélité que Dieu va manifester au peuple juif, qu'il a manifestée à Néhémie, il va manifester cette même fidélité envers nous, envers toi. C'est le même Dieu, c'est la même fidélité. Deuxièmement, ce qui change après le sacrifice de Jésus, c'est que la présence concrète de Dieu n'est plus limitée au tabernacle ou au temple. C'est quoi le temple? Nous savons bien, c'est l'Église. Nous en avons parlé beaucoup ces dernières années et je ne vais pas tout redire. Je vous rappelle simplement que si dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait construit le temple, maintenant le peuple de Dieu est le temple. Et donc, si tu es comme David et tu as de grands rêves, et tu veux construire le temple de Dieu sur terre, ce n'est pas une question d'édifier un bâtiment. C'est une question d'édifier le peuple de Dieu, y compris toi-même, que tu grandisses pour que le temple grandisse. Maintenant, tu ne construis pas le temple de Dieu avec un marteau et une scie. Nous allons bien nous amuser avec les outils dans le nouveau local, mais nous construisons le temple de Dieu avec la parole et la prière et un mot d'encouragement et l'amour. Ce sont nos outils pour construire le temple. Et j'espère donc que nous sommes tous en train de construire ce temple chaque jour. Et donc, si nous construisons ce nouveau local et il reste vide, ce n'est pas un temple. Ce n'est qu'un bâtiment comme les autres. Et si nous y amenons des gens et nous ne leur faisons pas preuve de l'amour du Christ et nous ne parlons pas de la vérité de l'Évangile, ce n'est pas un temple. Ce n'est qu'un bâtiment comme les autres. Et dans ce cas, Satan nous laissera notre bâtiment. Parce que ce n'est pas vraiment la construction de ce bâtiment qui va empêcher. C'est la construction d'un temple vivant. Moi, je n'ai pas peur que Satan va essayer d'empêcher ce bâtiment, finalement. Ce n'est pas ça son jeu. Ce qu'il veut faire, c'est d'empêcher que ce temple vivant grandisse. Soyons vigilants. Et finalement, brièvement, le pays. Dieu veut que le pays que Dieu avait donné à Israël, la terre promise, c'était le pays de Canaan. Le pays que Dieu a donné à l'Église, notre terre promise, c'est la terre entière et le ciel en plus. La terre entière et le ciel en plus. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, c'était en Canaan où le peuple était censé bâtir le temple et vivre une vie consacrée à Dieu. Et si une personne voulait rencontrer Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir à Jérusalem et adorer au temple. Mais après la résurrection de Jésus, Dieu n'a pas appelé ses disciples à venir à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a envoyé ses disciples de Jérusalem en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Pourquoi? Afin que la parole de Habakkuk 2.14 se réalise. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Dans ce sens, la terre entière est notre pays. Parce qu'un jour, la terre entière sera remplie de la connaissance de notre Dieu. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier non plus que la Bible nous dit que nous ne sommes pas citoyens d'un pays terrestre. Nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire, nous faisons partie du royaume spirituel de Dieu. Si Esdras et Néhémie ont été appelés à reconstruire un royaume terrestre, avec des murs de pierre et un temple au centre, nous sommes appelés à construire un royaume céleste, un royaume spirituel qui transforme nos vies et la vie de notre prochain. Un royaume terrestre qui descend. Vous connaissez la prière de Jésus, que ton royaume vienne sur terre. Ici sur terre, que le royaume des cieux vienne sur terre. C'est notre pays, toute la terre et les ciels, le ciel en plus. Soyons vigilants et courageux cette année. Invitons Dieu à construire en nous et à travers nous ces trois choses qu'il a toujours voulu pour ce monde. Sa présence au sein de son peuple, pour que nous soyons une bénédiction pour la terre entière. Seigneur, nous te remercions parce que tu viens vers nous, parce que tu veux habiter parmi ton peuple, parce que tu nous aimes, parce que tu construis en nous et à travers nous un lieu pour ta présence sur terre. Nous voulons être ton temple. Nous voulons être dignes de ta présence. Nous te demandons de nous transformer et de nous protéger. Que l'ennemi ne puisse pas empêcher que cette église soit une église fidèle à toi, à ta volonté et à ta parole. Nous le prions au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour un dernier chant.
Je remercie Dieu de cette bonne parole qui est en fait un rappel du projet de Dieu dans nos vies.